Est-ce qu'on pourrait remettre les paroles du chant qu'on vient de chanter, s'il vous plaît? Oui, tu es le Dieu puissant. De qui il s'agit ici? L'Éternel, le seul Dieu. Mais c'est autant le Père que le Fils, n'est-ce pas? C'est Jésus-Christ. Jésus est Dieu puissant. Il règne dans l'univers, le Dieu vivant. Il est même pour nous un Père. Il avait été appelé dans Ésaïe comme le Père éternel qui devait venir. Et ensuite, le Dieu très saint, parfait à l'infini, celui qui vient et qui pour nous est un ami. C'est ce Dieu-là que le Nouveau Testament nous exhorte à aimer, à chercher, à connaître. Et Paul a écrit dans Philippiens 3, « Ce qui était pour moi un gain dans son ancienne vie, et je l'ai considéré comme une perte à cause du Christ. Et même je considère tout comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance du Christ Jésus, mon Seigneur. » L'excellence de la connaissance du Christ Jésus. À cause de lui, j'ai accepté de tout perdre et je considère tout comme des ordures afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec une justice qui serait la mienne et qui viendrait de la loi, mais avec la justice qui est obtenue par la foi en Christ. Une justice provenant de Dieu et fondée sur la foi. Mon but est de le connaître. Lui, ainsi que la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort. Donc, Paul témoigne que son but, qui englobe tous les autres objectifs de sa vie, est de connaître Christ, d'apprendre à mieux le connaître. Pourtant, Paul avait reçu une révélation extraordinaire, plus que tous les hommes de son époque, de la personne de Christ, mais son but était encore d'apprendre à le connaître de mieux en mieux. Donc, il est normal, si pour Paul c'est la chose la plus importante, il est normal qu'il souhaite cela à tous les chrétiens. Il dit dans Éphésiens 1, 16-17, « Je fais mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation qui vous le fasse connaître. » Paul priait pour ça, pour que les chrétiens connaissent de mieux en mieux leur Dieu, connaissent de mieux en mieux Jésus-Christ. Notre objectif principal aujourd'hui devrait être le même. Chercher à connaître Christ. Que tout ce que l'on fait, tous nos sous-objectifs de la vie, soient sous cet objectif principal qui est d'apprendre à connaître Christ. Apprendre à mieux lui ressembler davantage. Mais qu'est-ce qu'on fait quand nos faiblesses, parce qu'on est né chacun de nous avec des faiblesses, viennent nuire à cet objectif-là? Certains sont de naissance sont nés avec un manque flagrant de discipline, ou d'autres un manque de capacité, ou d'autres cherchent à étudier la Bible, mais ils manquent de concentration, un déficit d'attention, manque de mémoire. D'autres, à cause de leur horaire chargé, ça dépasse leur volonté, manquent de temps. Est-ce que tous ne sont pas appelés à pouvoir vivre une vie spirituelle épanouie et riche? Comment ça se fait que des faiblesses physiques ou émotionnelles ou psychologiques viennent nuire à notre croissance spirituelle? Est-ce que c'est une chose possible? Qu'est-ce qu'on en fait dans ce temps-là? Mais l'histoire qu'on va étudier aujourd'hui se passe à l'époque de Jésus, mais traite un peu de ce sujet-là. Ça se passe lors du dernier voyage de Jésus à la fin de son ministère, lorsqu'il est en route vers Jérusalem. Il passe par Jéricho, pas très loin de Jérusalem. C'était une ville qui était moins dans les montagnes, mais plus près du Jourdain, plus près du fleuve, plus près de l'eau. C'était un endroit stratégique à la croisée des chemins, un poste de douane principal aussi. Les gens venaient de l'Est, ils venaient de Pérée, d'autres s'en allaient ou arrivaient de l'Égypte, du Sud. C'est un endroit où il y avait beaucoup de circulation, c'était une ville de marchands où on pouvait faire des affaires. Donc, c'était une ville où il y avait beaucoup de taxes qui étaient perçues, beaucoup d'impôts. Et l'histoire qu'on va étudier concerne justement un collecteur de taxes, Zachée, que vous connaissez bien, qui était un péager. Qu'est-ce que c'est qu'un péager à l'époque de Jésus? C'est celui qui travaille au poste de péage. C'est aussi appelé un publicain, qui travaille pour le service public. C'est un mot plus en latin. Donc, un péager, c'est un fonctionnaire. Mais son rôle, c'est de collecter l'impôt, collecter les taxes. Son travail consiste à servir Rome. Donc, il collecte les taxes, pas pour la municipalité où il habite, mais peut-être un peu d'argent sert à cela, mais principalement, les fonds sont envoyés à l'Empire romain. Et habituellement, les péagers étaient originaires de l'endroit où ils servaient. Probablement que Zachée était originaire du coin de Jéricho. En tout cas, c'était un Juif, un Israélite. Il relevait habituellement le péager d'un chef des péagers local qui lui relevait directement de Rome. Il y avait quand même un niveau de hiérarchie, parce qu'à chaque fois qu'on touche aux questions d'argent, c'est très surveillé. Un péager, normalement, était une personne détestée, haïe de la population. Pour plusieurs raisons. Premièrement, parce qu'on n'aime pas les collecteurs d'impôts de toutes les époques. Ils n'ont pas de très bonne réputation. Ils ne sont pas populaires. Et en plus, celui qui devenait un péager devait acheter ce titre de Rome. C'est comme si tu achetais une concession. Tu achetais un permis d'être un péager. Mais ça te coûtait de l'argent, là. Les personnes qui se lançaient là-dedans, ce n'était pas seulement par vocation. C'était pour faire de l'argent qu'ils devenaient péagers. Donc, par les impôts qu'ils collectaient, ils voulaient se rembourser. Et si possible, faire de l'argent avec cela. S'enrichir aux dépens de la population. Donc, ils collectaient des impôts, mais plus élevés que ce que Rome exigeait. C'est sûr qu'ils n'étaient pas aimés. Tout le monde le savait. Et en Israël, les péagers, en plus, étaient considérés comme des traîtres. Parce qu'ils travaillaient pour l'envahisseur. Il y avait un grand mouvement populaire qui prônait la rébellion et qu'on devait se débarrasser de l'Empire romain, là. Puis eux, les péagers, au lieu d'être en faveur d'une rébellion, d'une libération, eux, ils étaient pour l'Empire, c'est sûr, leur revenu en dépendait. Donc, ils étaient haïs de la population, ils étaient considérés comme des traîtres. En plus, ils étaient considérés comme des impurs, qu'on ne devait pas toucher, parce qu'ils côtoyaient des païens. Ils négociaient avec des païens, ils collaboraient avec des païens. Donc, eux-mêmes se souillaient, ils étaient considérés comme impurs. Et si un Juif côtoyait un péager, il devenait impur. Ça, c'était dans leur croyance. On ne pouvait pas avoir de relation avec un impur de peur de devenir impur à son tour. Il n'était même pas admis au temple. Donc, si un péager voulait adorer son Dieu, aller servir, il était barré. Il n'était pas admis non plus dans les synagogues. Et même leur témoignage était refusé en cour. Si un péager témoignait qu'il avait vu quelqu'un commettre un crime, son témoignage était rejeté. Il n'avait aucune... on ne pouvait pas lui faire confiance. Aucune crédibilité, c'est cela. Il était considéré comme un pécheur. Et un pécheur avec un grand P, c'est-à-dire quelqu'un qui vit dans le péché. Il avait la réputation d'être égoïste, malhonnête, voire voleur. Même si un péager respectait les règles, la tentation était forte qu'il vole, mais même s'il respectait les règles, il était considéré comme un voleur. Et même, c'était une expression commune. Même Jésus a utilisé cette expression-là pour que les gens comprennent lorsqu'il parlait des voleurs. Dans Luc 7, 34, Jésus dit, « Le Fils de l'homme est venu, mangeant et buvant, et vous dites, « Ah, c'est un homme qui fait bonne chère, un buveur de vin, un ami des péagers et des pécheurs. » Jésus dit aussi dans Matthieu 21, 32, « Car Jean-Baptiste, est venu à vous dans la voie de la justice, et vous n'avez pas cru en lui. Mais les péagers et les prostituées ont cru en lui. Et vous qui avez vu cela, vous ne vous êtes pas ensuite repentis pour croire en lui. » Donc même Jésus, lorsqu'il parle, il leur montre même les pires pécheurs, même les péagers et les prostituées, il les met au même niveau. Même eux se repentent, sont prêts à écouter ma parole, et vous ne vous repentez pas. Dans Matthieu 5, le sermon sur la montagne, où Jésus dit de même d'aimer tout le monde, même aimer nos ennemis. Pour qu'on comprenne bien, il dit, en effet, si vous aimez ceux qui vous aiment, si vous aimez juste vos amis, ben, quelle récompense aurez-vous? Les péagers aussi, n'en font-ils pas autant? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens, eux aussi, n'en font-ils pas autant? Donc, les péagers sont même mis au niveau des païens. Maintenant qu'on sait ce que c'est qu'un péager, on va aller lire l'histoire de Zachée. Tournez dans Luc, chapitre 19. L'Évangile de Luc, le troisième livre du Nouveau Testament, chapitre 19. On va lire les versets 1 à 10. Luc 19, verset 1. Jésus entra dans Jéricho et traversa la ville. Alors un homme du nom de Zachée, qui était chef des péagers et qui était riche, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait pas à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, « Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Mais à cette vue, tous murmuraient et disaient, « Il est allé loger chez un homme pécheur. » Zachée, debout devant le Seigneur, lui dit, « Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Jésus lui dit, « Aujourd'hui, le salut est venu pour cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Donc, non seulement Zachée était un péager, mais il était le chef des péagers. C'est comme le chef des voleurs, un pécheur parmi les pécheurs, celui qu'on doit détester, celui qui la cause des malheurs, le mouton noir de la société. Mais il cherchait à voir Jésus. Puis on voit, c'est devenu son objectif principal ce jour-là. Je veux aller voir qui est ce Jésus-là. Il cherchait à le connaître. On ne sait pas ce que Zachée connaissait déjà sur Jésus, mais on voit dans les passages précédents, dans Luc, que Jésus s'était fait connaître, sa renommée était grande, et même dans Jéricho, tous acclamaient son nom parce qu'il venait de guérir un aveugle. Il venait de rendre la vue à un aveugle. C'est pas n'importe quoi. Et tous étaient dans l'étonnement de cela. Donc, Zachée, s'il n'avait entendu parler, il savait que ce Jésus était puissant. Il savait aussi qu'il venait de Dieu, parce que suite au miracle que Jésus a fait, toute la ville louait le Seigneur et acclamait Dieu, comme si le miracle que Jésus venait de faire avait été fait au nom de Dieu, que Jésus avait été envoyé par Dieu. Donc, Zachée pouvait avoir entendu cela aussi, que c'était un messager de Dieu. Il savait que Jésus était bon. Bien, probablement, parce qu'il guérissait. Il avait une réputation de guérir les malades, de faire du bien, même de pardonner les péchés passés des hommes qui se présentaient devant lui, qui étaient repentants. C'était un homme bon. Il savait probablement que Jésus était un homme modeste aussi, parce qu'il avait un style de vie itinérant, sans grande possession, sans richesse, à peine ce qu'il avait besoin pour survivre. Donc, il connaissait le caractère de cet homme-là, mais il a été attiré à le connaître davantage. Il voulait le voir, s'en rendre compte par lui-même. La Bible ne dit pas toutes quelles étaient ses motivations. Au minimum, il était curieux de voir ce Jésus qui attirait toutes les foules. Mais c'est plus qu'une curiosité, à voir les efforts qu'il a mis pour voir Jésus. On voit que c'est déjà un signe de l'appel de Dieu, que Dieu commençait à toucher son cœur. C'était la conversion qui s'amorçait dans le cœur de Zachée. Mais à cause de sa petite taille, je ne sais pas s'il était très petit, mais il ne pouvait pas voir. Puis à cause que la foule aussi le détestait, il ne voulait pas nécessairement lui faire de la place. « Viens, Zachée, pour voir. » Donc, c'était impossible pour lui de voir. Il a dû faire un effort supplémentaire. Il ne pouvait pas s'approcher. La faiblesse qu'il avait, ce n'est pas lui qui avait choisi d'être petit. La faiblesse qu'il avait, il était né comme cela. Ça l'empêchait de pouvoir connaître le Messie qui venait, ce Jésus dont tout le monde parlait, cet envoyé de Dieu. Mais il ne s'est pas servi de cela comme excuse. Sa petite taille n'a pas été un obstacle infranchissable pour lui. C'était un handicap, oui, mais il a su la contourner. Il ne s'est pas laissé décourager. Mais on voit qu'il a fait un effort de courir. Il a trouvé le moyen de grimper sur un sycomore. Un sycomore, c'est un figuier, d'un genre figuier, un arbre qui devient très large. un grand arbre dont les branches sont larges aussi, mais qui, les branches commencent assez basses. Et c'est facile de grimper dessus. Et c'est assez large que ça fait de l'ombre. Et souvent, c'était planté sur le bord des routes pour faire de l'ombre aux passants. C'est normal qu'on trouve des sycomores sur le trajet de Jésus qui traversait Jéricho. Et on comprend que même un homme de petite taille a pu grimper sur cet arbre-là. Mais il devait avoir l'air quand même ridicule. Si on s'imagine la scène, on peut s'imaginer un enfant qui grimpe dans les arbres. Mais un adulte, un péager, un fonctionnaire de Rome, le chef des péagers, qui court puis qui grimpe dans l'arbre, c'est assez comique. Et peut-être des gens se sont moqués de lui. Le texte ne le dit pas, mais ce qu'on voit, c'est que Zachée, pour lui, c'était plus important là, d'avoir l'air ridicule, d'être humilié et même de mettre en évidence sa faiblesse naturelle d'être petit. Là, c'était évident pour tous. Là. Il avait su se débrouiller toute la vie, acquérir des richesses, acquérir le pouvoir, malgré sa petite taille, mais ce jour-là, il avoue à tous que sa petite taille lui causait un problème. Là. Il était prêt à s'humilier pour voir ce Jésus, pour connaître Jésus. Que faire donc quand nos faiblesses deviennent un obstacle à connaître Jésus, à chercher Jésus? Certains parmi nous sont très gênés. Et juste de venir dans une assemblée comme ça le dimanche matin, c'est au-delà de leur force. Là. Mais ils doivent faire comme Zachée, trouver une solution, faire un effort supplémentaire, s'efforcer. D'autres qui ont de la difficulté à la discipline, à lire la Bible à tous les jours, peuvent trouver d'autres solutions. On peut trouver d'autres manières. Certains écoutent la Bible en audio dans leur voiture ou sur un CD. Il y a une foule de solutions imaginatives qu'on peut faire, qu'on peut trouver par l'aide du Seigneur, par l'aide de nos frères et sœurs. Comme Zachée, on peut redoubler d'efforts. Nos faiblesses, même physiques ou même mentales, ne doivent pas être une excuse pour cesser de chercher à connaître Christ. On peut prendre de nouvelles habitudes si les anciennes n'ont pas fonctionné. On ne doit pas laisser notre petite taille dans certains domaines de la vie être un obstacle, être une excuse à la paresse ou à l'indifférence. Zachée avait un autre obstacle aussi. De la vie de tous, il n'était pas digne de connaître Jésus. Il n'était même pas digne de s'approcher, même de voir Jésus. Il était disqualifié en partant à cause de sa mauvaise vie. C'est peut-être ce qui vous a retenu jusqu'à aujourd'hui. Vous pensez qu'à cause de vos péchés passés, vos erreurs, même votre style de vie qui n'est pas à la hauteur de ce que vous aimeriez, que vous êtes disqualifié. Vous pensez que votre impureté est un obstacle à connaître Jésus davantage, à aimer Jésus, à vous approcher de lui. Mais on voit très bien que ce n'est pas le cas. L'homme qui avait la pire réputation de la ville, Jésus l'a accueilli et a été prêt à entrer en relation avec lui. Ce que les gens croyaient, que lorsqu'on a péché, on est impur et qu'on ne peut pas côtoyer d'autres qui sont purs, ce que les gens croyaient était faux. Jésus est entré en relation avec une foule de pécheurs lorsqu'il est venu sur la terre. Il est dit que tous murmuraient. Donc, la foule qui acclamait Dieu et qui le louait d'avoir envoyé cet homme guérir un aveugle, guérir les malades, qui louait Dieu quand ils ont vu que cet homme-là se liait avec un pécheur, était prêt à aller dans sa maison, ils ont tous murmuré. Non seulement ils murmuraient contre Zachée, mais ils murmuraient contre cet homme qu'ils louangeaient quelques instants auparavant. Ils murmuraient contre Dieu. Ils se plaçaient à la place de Dieu pour condamner Zachée et Jésus. Condamner cette situation-là. Ils se sont placés en juge. Mais la tentation est forte pour nous même de condamner ces gens-là. On est vite sur la gâchette pour condamner les gens. Et quelqu'un qui vient au Seigneur, qui cherche à connaître Christ, mais qui a un lourd passé, qui a une vie de péché lourde, et qu'on sait que ça va lui prendre du temps avant de se débarrasser de ses mauvaises habitudes, on peut être tenté de le juger et de penser qu'il n'est pas digne encore pour le royaume de Dieu. Faisons attention de ne pas être comme les habitants de Jéricho, qui n'avaient pas compris le ministère de Jésus. D'ailleurs, Jésus, parmi ses 12 disciples, il comptait un péager. Matthieu était un ancien péager. un publicain. Dans Luc 5, on voit la conversion de Matthieu. Après cela, Jésus sortit et il aperçut un péager nommé Lévi. Lévi, c'est l'autre nom de Matthieu. Il était au bureau des péages. Il lui dit, « Suis-moi. » Et Lévi laissa tout, il se leva et le suivit. Lévi lui fit un grand festin dans sa maison. Il y avait une foule nombreuse de péagers et d'autres personnes à table avec eux. Et les pharisiens et leurs scribes murmuraient. La même réaction. Ils murmuraient et disaient à ses disciples, « Pourquoi mangez-vous et buvez-vous avec les péagers et les pêcheurs? » Jésus prit la parole et leur dit, « Ce ne sont pas ceux qui sont en bonne santé qui ont besoin d'un médecin, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler les justes, mais les pécheurs à la repentance. » On comprend que Jésus, ici, il est sarcastique ou ironique. Je ne suis pas venu appeler les justes. En fait, il n'y a aucun juste. Mais il n'est pas venu appeler ceux qui se croient justes. Il est venu appeler ceux qui reconnaissent qu'ils sont injustes. Il est venu appeler les pécheurs à la repentance. Et Jésus avait appelé Matthieu à la repentance. Jésus connaissait Zachée. Comme il y avait connu Matthieu avant même d'avoir discuté avec lui, il connaissait Zachée. Lorsqu'il est arrivé sous le sycomore où Zachée était perché, il a levé les yeux et il l'a nommé par son nom. « Zachée, hâte-toi de descendre. » Comment il connaissait son nom? C'est une indication que Jésus connaissait cette personne. Pas seulement son nom, mais il connaissait son être entier. Et même Jésus a dit, « Il faut que je demeure chez toi aujourd'hui. » Jésus savait que c'était sa mission, que c'était la volonté de son Père céleste, que Jésus aille dans sa maison ce jour-là. Donc, il connaissait Zachée comme étant un élu de Dieu. Un homme qui allait croire en lui, qui allait se convertir, qui allait se repentir. C'était sa mission d'aller chez lui. Donc, faisons attention nous-mêmes de ne pas condamner les gens à cause de leur style de vie. Parmi les gens malhonnêtes et corrompus de notre société, il y a peut-être des gens comme Zachée qui sont destinés à croire. Même le plus corrompu, un maire corrompu, un policier, un politicien, on est porté à les juger sévèrement, mais parmi eux, il y a peut-être des enfants de Dieu, des fils d'Abraham. C'est ce que Jésus a expliqué dans Luc 15. Je vous invite à tourner quelques chapitres avant, dans Luc 15, verset 1. Chapitre 15, verset 1. Tous les péagers et les pécheurs s'approchaient de Jésus pour l'entendre. Les pharisiens et les scribes murmuraient et ils disaient, « Celui-ci accueille des pécheurs et mange avec eux. » Mais il leur dit cette parabole, « Quel homme d'entre vous, s'il a 100 brebis et qu'il en perde une, ne laisse les 99 autres dans le désert pour aller après celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il la trouve? » Lorsqu'il l'a trouvée, il la met avec joie sur ses épaules et de retour à la maison, il appelle chez lui ses amis, ses voisins et il leur dit, « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai trouvé ma brebis qui était perdue. » De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Donc, pour Jésus, lorsqu'il a vu Zachée, c'était une brebis du troupeau de son père qui était perdue, qui devait être ramenée sur les épaules du berger. Zachée était une brebis perdue qui appartenait déjà au grand berger. Si on prend l'image même de la parabole qu'on vient de lire, il était la centième brebis qui faisait déjà partie du troupeau, qui appartenait au maître, mais qui était perdue. Et Jésus a été envoyé sur la terre justement pour venir chercher les brebis perdues du troupeau dont il a eu la garde. Et Zachée n'a pas résisté à l'appel de Jésus, même il l'a appelé Seigneur. Le jour même, il a fait de cet homme-là qu'il voulait apprendre à connaître son Seigneur. Mais ce qui démontre la réelle conversion de Zachée, c'est évident, c'est sa repentance. Son changement de style de vie, son changement d'attitude. À la suite de sa rencontre avec Jésus, Zachée s'est repenti. mais repenti d'une manière flagrante, sans équivoque. Il a avoué ses torts. Et alors que tous murmuraient lorsqu'il est dit qu'il s'est tenu devant Jésus, la plupart des commentateurs sont d'accord pour dire que cette expression-là veut dire qu'il s'est tenu devant témoins, même devant la foule qui murmurait. Il s'adressait à Jésus, mais il s'adressait devant témoins, et il a avoué ses torts. Il a avoué que sa richesse avait été mal acquise. Il était prêt à donner la moitié de ses biens aux pauvres. Il s'est engagé à compenser les pertes qu'il avait causées. Les Juifs, à l'époque, disaient que de donner 20 % de ses revenus annuels pour les pauvres était très généreux. Donc ça, on voulait être moyennement généreux, on donnait 10 % Mais quelqu'un qui donnait 20 % il était très généreux. Mais Zachée, il est allé jusqu'à dire « Je donne la moitié de mes biens, 50 %, pas seulement de mes revenus futurs, de mes biens actuels, de mes possessions. » Et pour ceux qui l'avaient fraudé, il s'est engagé à réparer les torts en allant plus loin même que la loi de Dieu. La loi de Dieu spécifiait dans Exode 22, « Lorsqu'un homme donnera à son prochain de l'argent ou des objets à garder, si on les vole dans la maison de ce dernier, le voleur donnera une compensation au double. » S'il est pris, bien sûr. Dans toute affaire frauduleuse concernant un bœuf, un âne, un agneau, un vêtement, un objet perdu, au sujet duquel on dira « C'est cela, le litige des deux parties ira jusqu'à Dieu, et celui que Dieu condamnera donnera à son prochain une compensation au double. » Donc, au double, c'est déjà beaucoup. Là. Mais Zachée va jusqu'au quadruple. Tous ceux, je vais refouiller dans mes livres, tous ceux que... chez qui j'ai pris de l'argent, qui n'était pas destiné à Rome et qui a servi à renflouer mes propres coffres, je vais les rembourser au quadruple. Ce n'était pas seulement s'il était pris la main dans le sac ou si quelqu'un le traînait en cour et réussissait à prouver qu'il avait mal agi. « Ah, si je suis pris, ben, je suis pris sur le fait, là, je vais rembourser. » Non, il était prêt à se dénoncer lui-même, à avouer ses torts. On voit vraiment un cœur repentant, mais sincère, qui ne joue pas la comédie. Et Jésus a approuvé la conversion de Zachée. Il a accepté. Jésus a dit, « Aujourd'hui, le salut est venu dans cette maison. » Donc, Zachée a été sauvé. Jésus est entré dans cette maison et le salut y est entré aussi. Lorsque Jésus entre dans le cœur de quelqu'un, le salut y vient, et c'est un salut éternel. Jésus apporte le salut. Mais comment la conversion de Zachée a-t-elle pu être possible? C'est quand même extraordinaire. Quelqu'un qui avait vécu au service de l'argent toute sa vie, subitement change. C'est drastique. Il s'en va dans la position inverse. Il devient un homme bon, un homme généreux, honnête, que même Jésus approuve, lui qui peut sonder les cœurs. C'est quand même étonnant que quelqu'un change comme cela. Là. Même on en douterait. On pourrait dire qu'il joue la comédie. Qu'est-ce qui s'est passé? D'ailleurs, Jésus vient peu de temps avant, dans le chapitre précédent, chapitre 18, de dire combien il est difficile pour un riche d'entrer au royaume des cieux. Et je vous invite à le lire, Luc, chapitre 18. C'est juste avant que Jésus se rende à Jéricho. Il vient de démontrer ça à ses disciples, à quel point c'est difficile pour un homme riche de renoncer à ses biens et d'entrer dans le royaume de Dieu. Luc 18, verset 18. Luc 18, 18. Un chef interrogea Jésus et il dit, « Bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? » Jésus lui dit, « Pourquoi m'appelles-tu bon? Personne n'est bon si ce n'est Dieu seul. Tu connais les commandements. Ne commets pas d'adultère, ne commets pas de meurtre, ne commets pas de vol, ne dis pas de faux témoignages. Honore ton père et ta mère. J'ai, dit-il, gardé tout cela dès ma jeunesse. » Jésus, après l'avoir entendu, lui dit, « Il te manque encore une chose. Vends tout ce que tu as, distribue-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux. Puis viens et suis-moi. » On comprend ici que Jésus n'est pas en train de dire que d'avoir des possessions, c'est mauvais. Mais Jésus, qui sonde les cœurs, savait qu'il avait un cœur attaché à l'argent. Il fallait qu'il brise, là. Arrêter de servir le Dieu de l'argent, Mammon, et servir le vrai Dieu. Et malheureusement, c'était plus fort que lui. Il n'a pas été capable. Verset 23, « Lorsqu'il entendit cela, il devint très triste, car il était fort riche. En le voyant, Jésus dit, « Qu'il est difficile à ceux qui ont des biens d'entrer dans le royaume de Dieu. Car il est plus facile à un chameau de passer par un trou d'aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » Ceux qui l'écoutaient dirent, « Mais alors, qui peut être sauvé? » Et Jésus répondit, « Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. » Donc Jésus venait de dire, quelqu'un qui est aux prises, qui est lié par son amour pour l'argent, par exemple, la Bible parle beaucoup de l'argent, parce que c'est un péché qui couvre une multitude de péchés, qui est la cause d'une foule de péchés, et qui est la cause pour plusieurs d'un rejet de Dieu, d'un rejet de l'Évangile. Et Jésus va jusqu'à dire que c'est impossible pour quelqu'un qui a un amour de l'argent d'entrer au royaume de Dieu. C'est impossible pour lui, par lui-même, de se libérer de cet attrait de l'argent. Donc, c'était tout aussi difficile pour Zachée ce jour-là. Lui qui avait consacré sa vie, et même il avait dû sûrement franchir beaucoup d'obstacles parce qu'il était de petite taille pour se faire respecter, pour devenir le chef des péagers. Renoncer à tout cela, c'était sûrement l'épreuve la plus difficile de sa vie. Et même humainement, c'était impossible. Mais à Dieu, tout est possible. C'est évident que ce jour-là, il s'est passé un miracle. Un changement d'attitude aussi drastique, on voit la main de Dieu qui a touché son cœur, qui est venu le chercher, qui est allé chercher la brebis perdue. Et même Jésus dit qu'il était un fils d'Abraham, un fils spirituel d'Abraham, un fils de la promesse de la vie éternelle qui est accordée, de la prospérité éternelle qui est accordée aux descendants d'Abraham, mais les descendants spirituels, ceux qui mettent leur foi dans le vrai Dieu et dans son Messie. Zachée, que tous considéraient comme un impur, une course perdue, un païen, le pire des pécheurs, même pire que les Romains parce qu'il était un traître, bien, il a été sauvé. Et en réalité, il était un fils d'Abraham. Héritier de la promesse de la vie éternelle. Vous voulez connaître ce Jésus qui aime les pécheurs, qui est prêt à accueillir à bras ouverts même ceux qui ont commis des fautes, qui sont même pas en mesure de réparer leurs fautes. Vous êtes peut-être dans cette situation-là. Vous voulez connaître ce Jésus-là, mais repentez-vous. Ne résistez pas à l'appel de changer de vie. Si vous vous repentez, vous serez déclaré juste, vos péchés seront effacés, vous pourrez faire table rase, naître de nouveau, commencer une nouvelle vie, repartir à zéro. Ce n'est pas votre repentance, ce n'est pas les œuvres bonnes que vous allez faire à partir de ce jour-là qui vont effacer les mauvaises d'avant. C'est ce que Jésus a fait à la croix. C'est votre foi dans ce Jésus qui est venu sur la terre en ami, comme on l'a lu tantôt, pour être notre Père, notre ami, notre Sauveur. Mourir pour nous, si vous avez la foi que Jésus est mort sur la croix à votre place, il efface vos péchés, il vous pardonne. Donc, c'est par la foi uniquement qu'on est déclaré juste. Mais la vraie foi pousse à la repentance. Quelqu'un peut dire qu'il a la foi, mais s'il ne change pas de vie, il n'a pas la foi. C'est une fausse foi. La foi qui sauve pousse à la repentance. Jacques le dit dans Jacques 2, « Il en est ainsi de la foi, si elle n'a pas d'œuvre, elle est morte en elle-même. » Quelqu'un dira, « Toi, tu as la foi, et moi, j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi, par mes œuvres, je te montrerai ma foi. » Si on sait que Zachée avait la foi véritable ce jour-là et qu'il a été sauvé, c'est par ses œuvres de repentance. Il s'est engagé devant tous à aider les pauvres à partir de ce jour-là, à arrêter de voler. Et même sa maison, Jésus dit que le salut est entré dans sa maison est devenue une source de bénédiction pour la ville de Jéricho. Il a fait volte-face. Mais c'est la foi en Jésus, lorsqu'on cherche à connaître ce Jésus, lorsqu'on cherche à connaître Jésus que l'on croit être Dieu, cette foi-là nous rend capables d'être repentants. C'est un miracle qui se passe. La foi en Jésus rend le riche capable d'abandonner ses richesses, l'égoïste capable d'abandonner son amour de lui-même, le menteur capable de changer et de devenir honnête et parler avec vérité. La foi en Jésus rend le paresseux capable de travailler, celui qui n'a pas de discipline capable d'avoir de l'ordre dans sa vie. Notre désir de connaître Jésus, notre foi en lui, va nous rendre capables d'être repentants. Et Zachée, ce jour-là, a été libéré. Vous imaginez le poids qu'il avait sur ses épaules, le fardeau d'être l'objet des murmures de toute la population, et même sa propre conscience devait le condamner. Tout ça a été enlevé. La paix qu'il a trouvée, la capacité d'être un homme honnête, bon, généreux. Nous sommes plusieurs ici à avoir déjà connu ce jour-là où nous sommes repentis pour la première fois. Plusieurs parmi nous, nous sommes déjà convertis. Nous avons encore besoin de nous repentir si notre vie n'est pas en règle. Et si on creuse un peu, qu'on s'auto-examine, on va voir que notre vie n'est pas en règle à 100%. Il y a toujours des petits coins à arrondir. Il y a toujours des petites trajectoires qu'on doit rectifier, des choses à abandonner, des choses qu'on avait réglées et qui malheureusement reviennent. La repentance fait partie de notre vie à partir du jour où on s'est converti. Si on ne l'oublie pas, malheureusement, on oublie d'être repentant. Mais Jésus, il s'invite dans notre maison, comme il l'a fait à Zachée. Il dit, je m'invite chez toi, là. Je m'en vais chez toi. Zachée pouvait dire non. Il a dit oui, heureusement, mais dit, Jésus s'invite dans notre maison, s'invite dans notre cœur, à tous les jours, il est prêt à venir. C'est ce que Jésus a dit aux chrétiens pécheurs dans Apocalypse 3, 19 et 20. On connaît bien Apocalypse 3, 20, mais le contexte, c'est que Jésus s'adresse à des pécheurs qui ont besoin d'être repentants. Il dit, « Moi, je reprends et je corrige tous ceux que j'aime. » C'est par amour que Jésus souhaite notre repentance. Aie donc du zèle et repens-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. C'est tout simple. Il n'y en a pas besoin de remettre un billet de 100 $ là. Lorsque Jésus franchit la porte, c'est gratuit. Il vient. On a juste à ouvrir la porte. Parfois, ça demande un effort d'ouvrir la porte à Jésus. Mais il faut le faire, cet effort-là. Il faut surmonter les faiblesses qu'on a, notre mauvais caractère, notre manque de discipline, notre paresse, notre orgueil. C'est dur d'avouer ses fautes. Lorsqu'on surpasse cela, qu'on surmonte ses difficultés, on ouvre la porte à Jésus et on peut se repentir. On apprend à connaître Jésus. Se repentir, c'est de ressembler à celui qu'on invite chez soi, de devenir son image. Donc, comme Paul l'a écrit, ce qui est le plus important dans la vie, c'est de connaître Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que plus qu'on apprend à connaître Jésus, plus qu'il va provoquer chez nous le désir de changer de vie, de se repentir et de lui ressembler. Et ça, c'est juste bon. Jamais c'est mauvais de faire cela. Parfois, on a un sentiment de tristesse de voir notre péché, mais cette tristesse-là est bonne parce qu'elle nous conduit au salut et nous conduit à ressembler à Jésus. Et plus on ressemble à Jésus, plus on est heureux, plus on est en paix, plus on est dans la joie, plus nos décisions sont bonnes, et on devient une lumière pour les nations, on devient le sel de la terre, et une source de bénédiction pour ceux qui nous entourent. Ce Jésus, ce Christ, nous aime d'un amour infiniment grand. On pense connaître à quel point Jésus nous aime, mais si on continue à creuser, à méditer là-dessus, à lire la Bible, à prier, à avoir une relation intime avec Jésus, on va découvrir encore plus loin comment Jésus nous aime. C'est comme s'il y a des couches de plus en plus loin. Jésus nous aime d'un amour infini. Et Paul sait ce qu'il souhaite qu'on comprenne, en particulier lorsqu'il prie pour que les chrétiens apprennent à connaître Dieu, apprennent à connaître Jésus, il souhaite d'abord qu'ils apprennent à connaître son amour. C'est ce qui change notre vie. Il dit dans Éphésiens 3, 17 à 19, que le Christ habite dans vos cœurs par la foi et que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour pour être capables de comprendre avec tous les saints, quelle est la largeur, la longueur, la profondeur, la hauteur, et de connaître l'amour du Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Wow! Plus on va apprendre à connaître l'amour de Christ, on va être rempli jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Qu'est-ce qu'il y a de plus que ça? Pour ça, surpassons les épreuves qui sont liées à nos faiblesses, à notre petite taille dans les différents domaines de la vie. Cherchons à connaître Jésus davantage. Comment on peut le faire? On revient toujours là-dessus, mais ce n'est pas sorcier, en lisant sa parole. Dieu dit que dans les derniers temps, il nous parle par le Fils. C'est Jésus qui nous parle. On va apprendre à le connaître en lisant la Bible. En priant Jésus aussi. Parce qu'en priant Jésus, il nous répond, il nous conduit. Il met les événements sur notre route, il nous accorde la sagesse. Par son Saint-Esprit, il nous donne la conviction de ce qu'on doit faire. On apprend à connaître Jésus davantage. Plus intimement. Puis c'est dans la prière qu'il va nous lancer des invitations. Il va nous dire, « Hey, Richard, descends de ton arbre, il faut que j'aille souper chez toi ce soir. » Si je ne prie pas, je n'ai pas de relation avec Jésus, je n'entendrai même pas son appel. En côtoyant ses disciples aussi, Jésus n'est plus en personne sur la terre pour qu'on puisse aller le voir, mais on peut aller voir ses disciples qui sont à sa ressemblance de plus en plus ressemblants. Si on côtoie des disciples qui ressemblent à Christ, on va finir par leur ressembler aussi et on va connaître davantage Jésus. Donc, fréquenter ceux qui ressemblent le plus à Jésus, c'est la meilleure solution pour connaître Jésus. Un test pour mesurer à quel point c'est vrai qu'on aime Jésus. On peut le dire en parole, « Oui, j'aime Jésus. » Comment on fait pour savoir si c'est sincère ou pas? Même soi-même, comment on fait pour savoir à quel point on aime Jésus? C'est par notre désir, notre disposition à nous repentir. C'est directement lié. Plus on aimera Jésus, plus on va être disposé à nous repentir et à demander pardon. Réfléchissez, c'est quand la dernière fois que vous avez demandé pardon au Seigneur pour une faute? C'est quand la dernière fois que vous vous êtes engagé à prendre une résolution à ne plus commettre ce péché? Dans Tite 1, 16, les hypocrites sont condamnés. Il est dit, ils font profession de connaître Dieu, mais ils le renient par leurs œuvres. Ils sont odieux, rebelles, incapables d'aucune œuvre bonne. Ne soyons pas comme eux. Repentons-nous, même si ça coûte cher. Et même la question de l'argent, là, ce n'est pas seulement qu'un exemple parmi tant d'autres. C'est important pour beaucoup, là. Et Dieu peut mettre sur votre chemin un frère ou une sœur qui est dans le besoin. Vous avez la capacité pour l'aider. Vous venez de recevoir un bonus à votre travail. Là, vous avez comme projet de vous acheter, je ne sais pas quoi, là, un cinéma maison. Ou de vous payer un voyage, enfin, qui est mérité parce que vous avez travaillé dur. Là, la personne se présente devant vous, puis elle est dans le besoin. Allez-vous être capable de résister à la tentation de garder l'argent et de lui donner? Allez-vous être capable d'être généreux? Allez-vous être capable de vous détacher de l'emprise de l'argent qui revient constamment de nous tenter? Nous avons tous une petite faiblesse à ce niveau-là. Mais si on est prêt à le faire, si on fait le pas de foi de faire la volonté de Dieu, Dieu va nous combler de bénédictions spirituelles et il va s'arranger pour qu'on manque de rien. Donc, la paix de ne manquer de rien, ça vaut tous les trésors de la terre, là. On en retire les bénéfices, et même ceux qui nous entourent en retirent les bénéfices. On devient une source de bénédiction pour notre famille, pour nos proches, pour nos frères et sœurs. La maison de Zachée est devenue une source de bénédiction pour la ville de Jéricho. Que notre maison en soit une aussi pour notre communauté. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Nous étions perdus, nous aussi. On a ouvert la porte une fois à Jésus, mais laissons-la grande ouverte. Laissons-le entrer. Amen.